Que savons-nous des adolescents de 16 ans, 17 ans, voire 18 ans? Que savons-nous de leur code? De la relation qu'ils entretiennent avec leur corps? Que savons-nous de leurs désirs, de leurs fantasmes, peut-être même de leurs blessures, de leurs chagrins? Que savons-nous de leurs amitiés, de leurs amours?
Ah, ils vont se multiplier!
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit. T'as pas le d'or.
Une heure, tout vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
C'est lequel?
Une heure, tout vous. Now, go away now.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Que savons-nous des adolescents, des êtres qui se détachent de leur famille, vivent leur vie et gardent leurs secrets? Celui-là est plus grand que les autres, enfermé dans un bracelet, un crime sans coupable apparent. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Ce pourrait être juste un film de procès, ce serait déjà pas si mal, mais c'est aussi et surtout un film sur le mystère, celui d'une jeune fille de 18 ans, accusée du meurtre de sa meilleure amie. Bonjour Stéphane de Moustier.
Bonjour.
Réalisateur de La fille au bracelet, une fille opaque et qu'il faudra interpréter, nous, spectateurs, plongés dans le doute qui parcourt cette histoire et ce procès. À l'opposé de cette incertitude, une avocate générale précise, procédurière. Bonjour Anaïs de Moustier.
Bonjour.
On n'avait pas l'habitude de vous voir dans ce registre, mais on s'est habitué à votre talent, celui de défendre n'importe quel personnage. Lui aussi a changé de registre et traversé le miroir et apparaît pour la première fois au cinéma. Bonjour Pascal Pierre Garbarini.
Bonjour.
Avocat dans le civil, comme on dit, et président de tribunal modéré. C'est une composition dans La fille au bracelet. Il sort mercredi prochain. Enfin, les films de cette semaine, à côté d'un grand doc, La cravate, ce gentleman, hashtag je suis là, Adam, la dernière vie de Simon, Un soir en Toscane et Notre-Dame du Nil. On va dire que c'est parti.
Mademoiselle Bataille, si je vous dis que vous ne semblez pas tout à fait dans votre assiette sur ces images, que répondez-vous à cela ?
Que je suis pas d'accord, je vous ai dit, j'étais épuisée, j'avais très peu dormi.
Et pour autant, ce n'est pas une position dont vous êtes coutumière. Mademoiselle. Votre silence me renvoie à cette dernière question. Vous n'avez rien dit aux policiers lors de votre garde à vue, ni au juge d'instruction, pendant vos trois premiers interrogatoires. Ça a été souligné, évidemment. Que signifiait ce silence? Étiez-vous pétrifié, choqué par ce que vous aviez vu ou fait peut-être?
Lise a 18 ans, elle vit dans un quartier résidentiel, sans histoire et vient d'avoir son bac. Depuis 2 ans, elle porte un bracelet électronique car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie. La fille au bracelet, c'est votre 3e long-métrage, Stéphane de Moustier. Une étude sur la jeunesse et ses mystères à l'intérieur d'un film de procès. C'était ça l'idée?
C'est totalement ça. Le procès... On le vit beaucoup du point de vue de ceux qui l'observent, beaucoup du point de vue des parents, de la jeune accusée. Et au-delà de l'enjeu pour le père, par exemple, de savoir si sa fille est coupable ou innocente, il se demande tout simplement qui est sa fille. Parce qu'à l'aune du procès, il découvre sa fille sous un jour qu'il connaissait pas. Et voilà, moi, la question qui m'intéressait, c'était est-ce qu'on connaît ses enfants? Dans quelle mesure, justement, on les connaît pas tout à fait ou pas du tout? Et jusqu'où on peut accepter ça, jusqu'où on les aime aussi.
D'ailleurs, c'est le portrait d'une famille et le film commence par là, par cette famille. Sur la plage, une famille apparemment heureuse, filmée de loin un peu. J'ai pensé à Haneke quand j'ai vu ce plan de loin avec ce père, cette mère sur la plage, le petit frère, la sœur, avant l'arrivée de la réalité et de la police.
Avant que tout ne change, ouais. Bah, la référence à Haneke, j'y avais pas pensé, mais je l'accueille volontiers puisque c'est un immense cinéaste. En tout cas, l'objectif avec cette scène d'ouverture, c'était de montrer la famille unie. La famille, c'est un plan qui est très solaire, qu'on a tourné après le tournage, parce qu'on a tourné le reste en hiver. Donc, on a tourné ça l'été, c'est un plan dans lequel on voit la mer, on voit l'horizon, comme si tous les possibles étaient encore envisageables pour cette famille. Et effectivement, cette image d'Épinal, cette image d'un bonheur ordinaire, c'est aussi un bonheur perdu pour cette famille, puisque tout va basculer et on assiste au basculement pendant ce plan.
Ça sera la seule image qu'on voit avant, finalement,
voilà.
Procédure judiciaire.
Ouais, après, le film bascule 2 ans plus tard, et 2 ans plus tard, c'est le temps du procès.
Alors, la seule image du bonheur.
C'est la seule image de bonheur, et puis c'est la seule image avant le procès finalement, puisqu'il y a cette scène et puis après il y a une ellipse de 2 ans et puis on arrive, on est dans la même famille, on sent que l'atmosphère et que tout a changé et parce que le procès va s'ouvrir.
Chamboulé, transformé par cette accusation, une famille qui n'accuse pas, qui cherche à comprendre, surtout le père incarné par Roche Dizem qui cherche à comprendre pourquoi sa fille ne se défend pas.
On est là pour t'aider. Mais si tu joues pas le jeu, on peut rien faire. Tu te rends compte de l'enjeu de ce procès ?
Bah oui.
Et pourquoi t'as pas répondu au juge à la fin quand il t'a demandé ce que ça te faisait de voir les images de Flora ? Moi j'aurais répondu ça me révolte, ou ça me peine. Je sais pas, j'aurais dit un truc qui montre que je suis pas indifférent.
Tu crois que je suis indifférente ?
J'ai pas dit ça, mais la cour t'observe et tu te simplifies pas la tâche là. Et encore une fois, je dis ça, c'est dans ton intérêt.
Quand le procès sera terminé, tu pourras arrêter de toujours me dire ce que je dois faire. Merci.
Stéphane de Moustier, ça peut rendre dingue d'avoir une fille comme ça. Enfin, je veux dire, vous voyez, il y a un meurtre qui a été commis, on l'accuse. Ouais. Elle ne dit rien, elle ne se défend pas.
Ouais, on a envie qu'elle parle, parfois on a envie qu'elle se conforme plus à l'attitude qu'on attend d'une accusée, mais après, je pense que les adolescents peuvent rendre dingue. Je pense que l'altérité aussi, ça rend dingue. Et même quand on a un enfant de 2 ans, 3 ans, 1 an, parfois on comprend pas ce qu'il fait. Alors là, c'est exacerbé, puisqu'il y a un procès, et donc on voudrait d'autant plus que son enfant ait l'attitude qu'on attend. Mais en réalité, elle a sa personnalité, elle a sa sensibilité aussi. Et j'aime bien, parce que là, on est à la radio, et... à la radio, il peut pas y avoir de silence, mais on entend même les silences, oui. Là, je trouve, dans les extraits. Et c'est vrai que c'est un personnage qui souvent se tait. Mais c'est des silences qu'on passe son temps à interpréter, parce que ça peut traduire soit le fait qu'elle échappe à quelque chose, soit le fait qu'elle est justement en souffrance, soit le fait qu'elle est provocatrice, parce que c'est aussi des âges où on est totalement insoumis, des âges où on peut être incorruptible, farouchement indépendant aussi. Elle a tout ça. Mélissa Guerre, je trouve qu'elle a l'actrice qui interprète le rôle de Lise, de l'accusée dans le film, elle porte tout ça, elle charrie tout ça. Et je pense que l'âge par excellence où on peut être déroutant, c'est l'adolescence aussi. Donc là, il se trouve qu'elle a 17-18 ans, donc ça collait. Mais oui, ça peut rendre dingue.
Dans cette histoire de famille, vous avez choisi votre famille. Un membre de votre famille, c'est Anaïs, votre sœur. C'est vrai que vous êtes trop jeune, on va le dire, pour incarner cette jeune fille.
Ah oui, je n'aurais pas fait mieux que Mélissa Guerre, surtout.
Non, et pareil pour incarner la mère, c'est pas non plus votre âge, votre catégorie d'âge. Donc, on vous a assigné à cette avocate générale procureure. Vous dites que souvent des femmes de 30 ans, d'ailleurs, remplissent cette fonction, Stéphane de Moustier.
Il y a de plus en plus de magistrateux, d'abord, au féminin, absolument. Et de jeunes, du coup, qui ont des postes aussi élevés que ça. Et
absolument, je parle sous le contrôle de Maître Garbarini, qui connaît mieux que moi l'affaire. Mais c'est vrai que moi, en préparant le film, je suis allé beaucoup à Bobigny ou assister à des procès en cour d'assises pour m'imprégner. Et j'avais pas du tout écrit le rôle pour Anaïs, j'avais écrit le rôle pour un homme d'une 60aine d'années, avec des cheveux gris, une prestance, de l'expérience, une épaisseur. Et puis j'ai constaté que c'était quasiment systématiquement des femmes jeunes, 30 ans, parfois moins. Mmh. On m'a expliqué, c'est des substituts du procureur. Elles sont parachutées là parce qu'il y a une crise de la profession et parce qu'il faut occuper le poste. Mmh. Et ces femmes-là, souvent, je l'ai observé, étaient très virulentes, étaient beaucoup dans l'accusation et parfois sortaient du strict terrain judiciaire pour aller sur le terrain de la morale.
Ça vous a gêné, ça, Anaïs de Moustier, ce côté justement très, très rigide? On en parlait un petit peu avant l'émission, vous disiez, est-ce qu'elles sont aussi accusatrices?
Ouais. Non, ça m'a pas gêné, au contraire, c'était passionnant comme rôle, parce que jouer le rôle de quelqu'un qui n'est pas spécialement sympathique pour le spectateur, c'était un peu nouveau pour moi, j'avoue. Et c'est Stéphane qui m'a confié ce rôle-là, et j'ai découvert à quel point le terrain de jeu était excitant. Et puis je me suis surtout employée à comprendre les raisons de cette jeune femme. Je me suis dit qu'elle avait sûrement besoin de compenser effectivement son jeune âge, peut-être qu'elle a un problème de légitimité, et donc elle en fait un peu trop, comme on le voit souvent dans différentes fonctions à différents postes.
Pascal Pierre Garbarini, vous avez vu des femmes qui en faisaient trop justement dans ce poste-là? Des jeunes qui veulent prouver quelque chose?
Ils vous ont embêté?
Je ne vois que ça.
C'est vrai?
Je ne vois que ça. Oui, aujourd'hui on est dans une accusation à outrance, et ce qui ressort tout à fait bien dans le film, n'oublions pas que la cour d'assises, c'est le lieu géométrique du malheur humain. C'est-à-dire que quand quelqu'un comparait, d'abord c'est le malheur sur des faits qui sont passés, qui vous reviennent à la figure, et là on va vous poser plein de questions. Et c'est pour ça il y a les silences de Mélissa dans le film, etc. Parce que c'est très impudique. C'est-à-dire que vous devez vous mettre à nu, c'est-à-dire on vous pose des questions qui sont très impudiques sur les faits, mais sur vous aussi. Oui. Qui êtes-vous ?
Ça, c'est passionnant dans le film.
Et donc là on s'aperçoit. C'est pour ça que moi j'ai été schizophrène pendant ce tournage, parce que non seulement j'assouvissais un fantasme, c'est-à-dire qu'un avocat pénaliste qui devient président de cour d'assises, on en rêve tous. Donc déjà j'avais déjà un de mes fantasmes assouvi, c'est déjà pas mal. Et ensuite j'étais complètement schizophrène parce que en même temps je regardais en tant qu'avocat, en même temps je jouais et en même temps je regardais toutes ces vérités. Et comment elles étaient appréciées par des gens qui ne sont pas du métier. Et le film le montre très bien. Ce film-là, c'est un instant de vérité. Parce que là, on voit, et heureusement, ça ne touchera pas le spectateur, mais on voit qu'est-ce qui se passe. Et c'est affreux. On va parler de la famille. La famille, comment on se remet d'une histoire comme celle-ci? Quel que soit le résultat, quel que soit le verdict, comment on s'en remet?
Vous parlez de la famille, surtout de la fille assassinée.
Absolument.
Bien sûr.
D'une part. Mais également,
non, la tragédie. La famille accusée.
Mais il y a les deux familles, en fait.
Les deux familles. On oublie souvent, bien évidemment, que les victimes vont être impactées. Mais l'autre famille aussi.
D'ailleurs, Stéphane de Moustier, on n'est pas beaucoup du côté de l'autre. C'est pas votre sujet, certes, mais on est très, très, très peu de.
Oui, on est très peu du côté de la victime.
Oui.
Parce que c'est le procès de l'accusé.
Ouais.
Et puis parce que moi c'était aussi l'angle qui m'intéressait, c'était qu'est-ce que c'est quand on a quelqu'un dans sa propre famille qui est accusé? Comment on traverse cette épreuve-là? Parce qu'on pense souvent à la peine des victimes et de leur famille, on arrive à se représenter ou pas, mais en tout cas le malheur incommensurable qu'ils vivent.
Le deuil, la
voilà.
Perte.
Mais la famille de l'accusé, comment elle fait face? On aime ses enfants.
Le doute, c'est
voilà, et le doute qui s'immisce dans ces familles-là aussi. Tout ça, c'est des composantes que je trouvais passionnantes. Et j'avais envie d'explorer ça.
Alors c'est intéressant parce que aussi on revient sur des comportements humains à des moments précis dans le passé, comme vous, Anaïs de Moustier, quand vous interrogez le père qui est incarné par Roche Dizem, vous êtes extrêmement pointilleuse.
À présent, j'aimerais que nous évoquions l'arrestation de votre fille. Est-ce que vous pouvez nous exposer votre version des faits?
Nous étions à la mer, la police est arrivée, a demandé à lui parler, et elle les a suivis.
D'accord, donc vous n'avez pas observé de résistance de la part de votre fille?
Ça a été rapide.
Oui, précisément, cela signifie qu'elle n'a pas contesté, n'est-ce pas?
Quand vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez aucune raison de vous enfuir.
Bon, elle aurait pu simplement demander pourquoi on venait l'interpeller de la sorte, ou du moins s'en étonner.
Elle était étonnée.
Ah, vous avez l'impression qu'elle était surprise?
Oui, bien sûr.
Comment a-t-elle manifesté son étonnement?
Je ne sais pas, elle était étonnée, c'est tout, ça se voyait à son expression.
Lorsque votre fille s'est éloignée, quelle a été votre première réaction?
J'ai demandé au policier ce qu'il lui voulait.
Vous étiez surpris?
Forcément.
Voilà, vous êtes surpris, vous demandez ce qui se passe, vous posez des questions. Comment expliquez-vous que votre fille n'ait pas exprimé sa surprise aussi simplement que vous l'avez fait?
Je vous ai dit qu'elle était surprise.
Oui, mais pour autant, elle n'a rien exprimé verbalement de sa surprise.
Ça ne change rien.
Ce qui est fou, c'est qu'il faut se rappeler de son attitude de, en gros, 2 ans avant, hein, Pascal-Pierre Garbarini. C'est ça le travail avec les témoins.
Oui, c'est l'effort de mémoire.
Oui, exactement.
L'effort de mémoire, et on oublie. On oublie.
On oublie ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait aussi.
On oublie pourquoi on l'a fait. Et là, on vous demande des instants de vérité. Mmh. C'est-à-dire que votre parole, vous la jetez, mais vous ne savez pas comment les jurés vont l'apprécier. C'est-à-dire que vous vous rendez compte. C'est-à-dire que si vous maîtrisez votre parole, on vous dit, les jurés vont dire, tiens, il est en leçon apprise. Mmh. Il est en train de nous mentir.
Ouais.
Et c'est un stratagème. Ouais. C'est une méthode, etc. Donc ça, c'est l'avocat qui a dû lui dire. Donc si en revanche, vous parlez spontanément, mais que vous vous trompez. Vous dites, mais vous voyez, mademoiselle, vous mentez. Mais pourquoi mentez-vous?
C'est un
piège, en fait. C'est un piège.
Moi, ce que je trouve passionnant, justement, dans le film et avec tout ça, c'est qu'en fait, on se rend compte que tout ça, c'est de l'interprétation. À chaque fois, on revient sur des faits. Et donc, en fait, le spectateur est tout le temps dans... Le spectateur, pour ce film, il est vraiment dans la position d'un
juré. Oui.
Et donc, il est tout le temps en train d'interpréter, de revivre des scènes qu'il n'a pas vues. Puisque, à part cette scène d'ouverture, en fait, on revient sur des faits qui ne sont jamais filmés. Et donc, l'interprétation, le fantasme, l'imaginaire, tout ça, c'est... Et puis, oui... observer les gens et savoir est-ce qu'ils sont dans la vérité ou pas. Je trouve que ce sont vraiment des questions de cinéma. Et donc c'est génial.
Et regardez, là, sur l'extrait qu'on vient d'entendre, comme l'avocat général, elle le piège, le père.
Ouais.
Mais la fille n'était pas étonnée, mais elle n'avait pas à l'être. Et vous êtes étonné. Donc, et là, il se rend compte que il commet une faute dans la défense de sa propre fille. En disant que lui n'était pas étonné, alors qu'il avait dit que c'était normal qu'elle soit pas étonnée. C'est incroyable.
C'est pas de moustier, c'est des dialogues incroyables à écrire. C'est jouissif, ça. Le pour, le contre, j'essaye de te coincer. Enfin, ça,
non,
c'est pour
un scénario. On se régale parce qu'un procès, c'est un duel. Il y a beaucoup de duels, il y a beaucoup de matchs dans le match. Donc, on se régale à les écrire, cela. Mais ce qui est intéressant aussi, en tant que réalisateur, c'est que un témoin qui raconte, c'est déjà un témoin qui réinvente par la force des choses dès lors qu'on évoque et qu'on cherche
qui fictionne quoi.
Ouais, on fictionne inévitablement dès lors que même en voulant restituer. Et là, on en a parlé tout à l'heure. Là, Roger Zem, il évoque justement le père, la scène d'ouverture du film. Les spectateurs l'ont vu. Et lui, il la raconte, mais il la raconte tel qu'il l'a vécu. Et nous, spectateurs, on peut interpréter sur la base aussi de ce plan qu'on a vu. Et moi, je trouvais ça super intéressant de constamment, enfin, en écrivant en tout cas, je me suis amusé à ça, à constamment écrire pour que les deux interprétations soient possibles, pour que plusieurs interprétations soient possibles. Parce que souvent, la réalité, elle est plus ambiguë. Et puis moi, en tant que spectateur, j'aime ça. J'aime osciller. Voilà. Donc, j'ai pas tourné le dos à ça.
Et c'était important de tourner dans un vrai tribunal, celui de Nantes.
C'était important pour plusieurs raisons. C'était important d'abord parce que je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'authenticité qui s'imposait en étant dans un vrai tribunal. Les acteurs vous le diront, mais on n'est pas conditionné de la même manière. Alors nous, on ne fait que du cinéma, les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais voilà, ça nous porte, ça irrigue le film. Et après, c'est important ce tribunal-là, parce que c'est un tribunal qui est très cinégénique. Moi, je voulais un lieu moderne, parce que j'aime bien les films qui interrogent le monde dans lequel on vit. Et là, je voulais que ce film mette en scène une famille contemporaine, une jeune fille contemporaine. Et donc, j'avais l'impression que d'avoir un décor moderne, contemporain, ça a participé de ce projet. Et après, il se trouve qu'il est extraordinairement cinégénique, parce que voilà, il est rouge. Et donc, ça irrigue le film, ça le traverse, ça lui donne du caractère. Il est à la fois... il a à la fois ce caractère, en même temps il est très simple avec des aplats. Donc voilà, on n'a que les personnages à scruter, que les visages à regarder, et on n'a que cette jeune fille à sonder en permanence.
Un tribunal, Pascal Pierre Garbarini, c'est votre plateau, hein, c'est votre scène. Vous avez apporté des détails, des informations par rapport à la crédibilité de tout ça?
Très peu, parce que Stéphane avait épié dans les cours d'assises de Bobigny et d'ailleurs, donc il était quand même très féru et très informé de la vie judiciaire et d'une audience devant une cour d'assises. Donc je crois que où je suis le plus intervenu, c'est sur les scellés dans le film, où là c'est vrai que il y a un protocole et un rituel qui est complètement absurde, mais qui est obligatoire, parce que sinon c'est des nullités qui peuvent faire tomber un procès. Donc voilà.
On a ouvert l'émission et ça m'a fait très plaisir sur la voix envoûtante d'Annie Mercier avec cette phrase où elle dit que savons-nous des jeunes adolescents de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et c'est une phrase que je dois à Pascal Garbarini, parce qu'on était à mi-tournage quand Pascal Garbarini, donc, qui jouait le président de cour d'assises, est venu me voir et il m'a dit: Stéphane, moi je sais ce qu'il faut dire à la fin pour l'acquitter, la petite. Je sais ce qu'il faut dire. Alors j'ai dit d'accord. Il dit: laisse-moi t'écrire la plaidoirie. Alors là, la pauvre Annie Mercier a dit: bah, non, Pascal, tu peux pas me faire ce coup-là, moi j'ai appris mon texte. Pascal Garbarini, un réalisateur, ça fait feu de tout bois. Donc j'ai dit: bien sûr. Volontiers. Il est arrivé lundi avec une plaidoirie
gratuitement, ce qui est très rare pour les...
gratuitement. et voilà, il y a des morceaux évidemment que j'ai conservés et volontiers. Annie Mercier s'est rendue à l'évidence, c'était mieux avec l'apport de Maître Garbarini. Donc voilà, mais vraiment sa présence, elle était, il est très modeste là, mais
oui, parce que moi aussi comme actrice, je lui posais tout le temps des questions.
Voilà. Les acteurs allaient tout le temps le voir et c'était extrêmement utile, précieux de l'avoir avec nous.
Pascal Garbarini, je vous appelle Pascal parce que j'enlève le Pierre puisque Stéphane de Moustier l'a enlevé. Les films de procès, c'est un vrai genre en soi. Vous qui aimez le cinéma, qu'est-ce que vous avez comme référence, vous avocat, comme référence en tête de grands films?
En tête,
Les 12 hommes en colère, j'imagine.
Mais La vérité de Clouzot.
Oui.
L'inconnu dans la maison avec Rému, Maître Loursat. Ouais. Bien évidemment.
Autopsie d'un meurtre.
Témoin à charge avec Charles Laughton. Ouais. Bon, ça c'est anglais, mais bon, il est tellement bon avec Marlène Dietrich et Tyrone Power. Voilà. Moi, j'adore le film de procès, parce que comme je l'ai dit, c'est que le film de procès, le spectateur, en fait, il est à la fois spectateur parce qu'il regarde un film. et en même temps, il juge. Donc c'est une double expérience, c'est-à-dire que vous allez dans le cinéma et en fait c'est du cinéma interactif, parce que quand vous sortez de la salle, alors si la cour a prononcé le verdict en disant non mais je pense quand même que ils auraient pu la quitter et inversement, donc je trouve que ça a vraiment une vraie force, quoi. Vous en avez plein les mirettes, comme on dit.
On va vous écouter dans le film dans une très belle scène avec Chiara Mastroianni qui a un petit rôle mais très fort, qui est un interprète incroyable, où vous lui posez des questions.
Ce qu'a subi Flora est innommable, affreux. Mais une fois encore, le fait que Lise ait été au mauvais endroit au mauvais moment ne devrait pas lui coûter sa jeunesse. Alors à ma manière, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai essayé de faire en sorte que la vie continue. J'ai repris le travail, d'autant que on pouvait plus se permettre, parce qu'on est tous les deux profession libérale avec mon mari, comme il avait tout arrêté lui aussi. C'était probablement égoïste de ma part, parce que ça m'éloignait de tout ça, mais c'était aussi une conviction profonde. On n'est coupable de rien. Lise n'est coupable de rien. La vie doit reprendre ses droits, même si c'est impossiblement définitif.
Permettez-moi une remarque, madame. Ce que vous venez de nous exposer n'explique pas votre absence au procès. Si j'insiste là-dessus, et je vais être très franc avec vous, c'est parce que votre absence pourrait être interprétée comme un abandon, voire une forme d'aveu de votre part.
Non, mais d'une certaine manière, on peut se dire que j'ai lâché. J'ai lâché parce qu'on était deux. Parce qu'il y avait mon mari et que je savais que lui tenait le cap, même quand ça me paraissait insurmontable. Je savais qu'il serait toujours là pour moi et pour Lise. Je me suis sûrement trop reposée sur lui.
Vous avez lâché votre fille ?
Moi, je sais que ma fille est innocente. Alors ce procès, à la fois j'en attendais rien et je le redoutais. Pardon de dire ça, mais c'est la vérité.
Que redoutiez-vous si vous avez la certitude que votre fille est innocente?
Je crois que j'avais pas la force de revivre encore et encore cette affaire. Je m'en suis rendu compte trop tard et je me suis dérobée. J'ai pas réussi à faire autrement.
Pascal Garbarini, vous êtes avocat dans la vie, là, juge dans ce film. J'imagine que vous avez modéré pas mal votre jeu, parce que je crois que vous êtes un avocat qui parle haut et fort. Il paraît que vous citez même des répliques de films dans certaines de vos plaidoiries, c'est vrai?
Oui, parce que c'est très vrai, parce que je me suis rendu compte que les films, quand on veut retracer une situation, en fait, les films, ils parlent aux gens. Parce que ça reste une scène de film, elle reste dans la mémoire. Et donc souvent, lorsqu'il faut expliquer, de citer un film et de reprendre une réplique...
Vous en avez une en tête,
oui,
là.
Récemment, vous avez sorti quoi?
Non, mais j'en avais une sur un film de Wells, sur l'amitié, en fait, dans Mr. Arcadine.
Ouais, c'était quoi?
Et ben, c'était lorsque c'est l'histoire de Wells quand il arrive près, où il raconte, quand il rentre dans le cimetière, où il dit j'ai rêvé, j'ai rencontré un vieux monsieur dans un cimetière, et dans ce cimetière je disais que ce pays est étrange, il y a que sur les tombes un très court temps entre la date de naissance et la date de la mort. Donc je m'approche de ce vieux monsieur qui est à côté du cimetière et je dis: quel est ce pays étrange où les gens meurent si jeunes? Et là le vieux monsieur de dire à Wells, dire mais non, parce que dans ce pays seuls comptent les années qu'ont duré une amitié. Et il dit, je bois l'amitié. Et je m'en suis servi sur un vol à main armée, enfin, sur une évasion, en fait. Sur l'évasion de Ferrara, où on reprochait à mon client. On reprochait à mon client d'avoir commis les faits pour de l'argent. Et j'ai expliqué que non, c'était pas l'argent qui l'avait conduit à faire évader son ami, mais c'était l'amitié. Et donc, j'ai cité ça.
Voilà. Il faut des qualités d'acteur pour être avocat, mais pas les mêmes que celles d'un acteur comme vous l'avez été sur le film de Stéphane de Moustier, peut-être.
Alors, moi je partage cet avis. Moi, je pense que quand on est avocat, il y a une part, bien évidemment, on joue un rôle. On joue un rôle où on doit, bien évidemment, par exemple, moi je suis très heureux que dans notre pays on porte une robe. Moi, je pourrais pas aux États-Unis plaider comme je le plaide si j'étais en costume de ville. Moi, le fait de mettre une robe tout de suite, quand je vous disais que je suis schizophrène, je pense que je le suis vraiment, et je suis un autre. Là, je suis Maître Garbarini, et donc je peux tout me permettre dans la défense. Je suis chez moi. Et Stéphane parlait justement de la cour d'assises du lieu. Ben voilà, tout de suite, je suis chez moi, je suis dans ma maison. Et là, je vais m'exprimer, je vais défendre. Point. Voilà.
Quand vous avez écrit cette plaidoirie, je suppose que vous avez pensé, peut-être que vous avez eu des affaires similaires avec des adolescentes mutiques. Est-ce que l'avocat doit savoir si sa cliente est coupable ou non ?
The question. Non. Vous savez, l'avocat, on dit toujours, mais il y a la vérité judiciaire, c'est Rashomon hein, de Kurosawa. Hein. Il y a la vérité judiciaire et puis il y a la vérité tout court.
Tout dépend de l'angle.
Tout dépend de l'angle. Ouais. C'est quoi la vérité ? Et au procès, on est de toute façon coincé, si je puis dire, puisque la vérité judiciaire, c'est le dossier qui est soumis. C'est le dossier qui est soumis. Et la magie de la cour d'assises et la magie de ce film, c'est ça, c'est que les jurés, sachez que les jurés, comme les spectateurs, ils apprennent ce qui s'est passé par l'oralité des débats, par les discussions. C'est pour ça qu'il faut être impudique. On doit être impudique. Jusqu'où ? Jusqu'où ?
Vous préférez ne pas savoir ?
Ah, moi, je préfère ne pas savoir.
Stéphane de Moustier, est-ce que vous voulez savoir si elle est coupable ou pas, et est-ce que ça peut influencer... Non mais, ça peut influencer sur la mise en scène, ça.
Bien sûr.
Non, sur la direction d'acteur.
Mélissa Gers, qui n'avait jamais joué de sa vie au cinéma, elle m'a...
Mais
qui a un merveilleux instinct d'actrice qui est faite pour ça, elle m'a tout de suite posé la question. Elle m'a dit, est-ce que mon personnage est coupable ou innocent? Parce que, évidemment, ça avait une incidence sur la manière dont elle allait l'interpréter. Je lui ai dit, je n'ai pas écrit l'histoire du point de vue de ton personnage, mais du point de vue de ses parents, du point de vue de ceux qui l'observent, donc je ne sais pas si elle est coupable ou innocente. Tu décides si elle est coupable ou innocente et tu me le dis jamais. Je veux pas le savoir. Moi, je voulais pas le savoir parce que c'est un film sur le doute. C'est un film sur la croyance. C'est un film sur l'interprétation et je voulais, moi, m'appliquer aussi ce programme-là. Je voulais pas avoir un temps d'avance sur le spectateur. Donc, j'ai dit tout à l'heure, oui, je ménage toujours deux interprétations possibles en tant que scénariste et en tant que réalisateur du film. Mais pour autant, il n'y a pas de surplomb. Je voulais pas qu'il y ait un surplomb du réalisateur sur l'histoire. Et là, j'aurais pas été à l'aise avec la manipulation. Je le suis parce que je suis dans la même situation que le spectateur. On est sur un pied d'égalité. Voilà.
Cette notion de doute, elle vous taraude aussi, j'imagine, Anaïs de Moustier.
Bah moi, elle me taraude pas du tout au moment où je tourne le film.
Non, bah non, l'avocat général est persuadé.
Je devais composer avec mon instinct qui, pour moi, était un instinct de spectatrice lambda et qui me dit. Et surtout, moi, cette actrice, elle m'a fascinée, donc j'avais de l'empathie pour elle. J'avais envie qu'elle soit innocente. Donc, il a fallu que je m'auto-persuade qu'elle était très très coupable. Et c'était très amusant à faire en fait, d'avoir une fonction comme ça très précise dans le film et d'être complètement braqué sur cette fonction là et c'était très agréable.
Mais Pascal Garbarini l'a dit tout à l'heure, il a dit je mets la robe et là ça y est, je suis dans mon rôle. Une cour d'assises, c'est une scène où chacun joue sa partition, où il y a une répartition des rôles. Et là, ce qui est déroutant, c'est que il n'y a que l'accusé qui se soustrait au jeu de rôle, qui refuse d'y participer. Oui, elle est opaque, oui, elle est fuyante, oui, elle nous déroute parce qu'elle ne se comporte pas comme une accusée, mais c'est justement, il y a toujours un facteur humain qui est irréductible et qui jaillit à un moment donné en cours d'assises. En tout cas, moi, de ma petite expérience, c'est ce que j'ai observé et c'est ce que le film essaye aussi de traiter.
Les deux solutions finales sont atroces, c'est-à-dire que c'est un crime atroce, déjà. Si elle l'a fait, elle en a pour toute sa vie dans sa tête. Si elle l'a pas fait, c'est une énorme erreur judiciaire. C'est pour ça qu'on est un peu surpris qu'elle ne se défende pas.
Mais l'opacité des accusés, elle est très fréquente.
Ça existe. Des gens comme Patrick Dils, par exemple, ne se défendaient pas.
Le jeu, on parle toujours de jeu judiciaire parce que c'est un jeu et normalement tout le monde doit jouer une partition. Mais il y en a qui refusent. Parce qu'ils n'y arrivent pas, parce que ils ne veulent pas. Il y en a qui ne veulent pas. Ils disent je suis blessé dans ma chair. Je m'en fiche en fait du jugement des autres. C'est-à-dire que parce qu'ils ont été incarcérés, parce qu'ils le vivent mal, parce qu'ils ont des ressorts intellectuels de vie, de culture. N'oublions pas qu'en plus dans ce lieu encore une fois de tragédie qui est une cour d'assises. N'oublions pas que tous les gens qui la composent ont leur propre propre vie, leur propre expérience, comment ils ont vécu. Ils viennent de classes sociales différentes, donc tout ça, c'est un mélange. Donc comment la mayonnaise va, de ces humains va-t-elle prendre pour décider ces 12 hommes en colère, bien évidemment. Comment chacun va percevoir l'accusation, la défense de l'autre. Et puis vous avez cet autre qui est dans le box, qui peut dire, moi je refuse, moi je c'est vain ce jeu judiciaire, eh bien je m'en fous en fait.
C'est au-delà de mes forces.
Il peut y avoir ça aussi.
À l'arrivée, vous comprenez mieux l'adolescence, Stéphane de Moustier?
Je ne sais pas si je la comprends mieux, mais je suis content d'avoir partagé mes questions, et je suis content d'avoir... J'ai pris beaucoup de plaisir à observer cette adolescence, parce que moi, ça y est, je ne fais plus partie de cette génération, évidemment, mais elle me captive. Ce n'est pas un film qui fait le procès d'une génération contre l'autre, c'est vraiment, en revanche, un film qui voit comment elles arrivent ou pas à cohabiter. Et moi, je pense que les ressorts humains sont les mêmes à chaque génération. Je ne me dis pas que cette génération elle est pire ou meilleure que les autres. Je trouve que c'est un âge qui est passionnant, donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'observer, parce qu'il y a elle, mais il y a aussi ceux qui témoignent et qui ont également parfois le même âge, etc. J'ai eu envie de les regarder parce que c'est un âge qui est cinégénique, parce que c'est un âge qui est, comme je disais tout à l'heure, qui est insoumis, et il y a quelque chose de très beau là-dedans.
Vous avez observé votre sœur à l'adolescence d'ailleurs.
J'ai observé ma sœur aussi.
Il y a 10 ans qui vous séparent, donc
c'est... Tout à fait.
Oui.
Ouais.
C'était un secret pour vous?
Est-ce qu'Anaïs était un mystère?
Non, pas du tout.
Je pense pas que je le vivais comme ça.
Il s'est bien foutu de ma gueule, je peux vous le dire.
Bon, en tout cas, c'est beau de tourner avec son frère, non?
Ah, c'est très beau. Ouais, c'était très beau. Et très... Non, c'était vraiment génial. C'était très simple, très naturel. Et en même temps, inédit, parce qu'on l'avait jamais fait comme ça si longtemps. Et puis, il m'a confié ce rôle qui était passionnant. C'était vraiment génial. J'étais impressionnée par lui, le film, je le trouve vraiment génial, quoi. Et puis je trouve qu'il a une grande maîtrise, une grande intelligence de mise en scène. Je suis fière de lui, vraiment.
Mais c'est facile de diriger sa sœur quand c'est
Anaïs de Moustier.
Quand c'est elle, voilà, parce que c'est une immense actrice. Et non, mais c'est vrai, quand j'avais fait mon premier film, c'était Abattu, j'avais été impressionnée par Olivier Gourmet, à quel point on pouvait aller très très loin dans le jeu, très très loin, on pouvait être extrêmement précis, faire ces acteurs qui sont capables d'entendre tout de suite ce qu'on leur dit, qui ont une grande acuité, et Anaïs c'est exactement la même chose. Et moi je suis son premier supporter, mais je l'avais jamais vu comme ça à l'ouvrage, dans le travail, dans la durée, et à cause de ce film, c'était enfin le cas, et j'étais impressionné par l'actrice que c'est.
Pascal Garbarini, vous allez continuer à jouer?
Je vais surtout continuer mon métier, ça c'est déjà... Voilà, mais je ne ferme pas la porte, on sait jamais, en tout cas c'était une expérience tellement passionnante pour moi.
Vous vous trouvez bien dans le film?
Quelle question dure. Disons que j'ai accepté de me regarder.
Vous auriez envie de jouer d'autres rôles que le judiciaire?
Peut-être, peut-être.
Accepter de se regarder, c'est quand même déjà... Il est fort, c'est... parce que moi j'ai mis 12 films. Hein. il est prêt.
Ça s'appelle La fille au bracelet, ça sort mercredi prochain. On se retrouve pour les sorties de ce mercredi après Brittany Howard, Georgia. Minnelli, Aldrich, Turner, Wilder, Mankiewicz, Kazan, Kubrick, c'est son palmarès d'acteurs. Kirk Douglas, parti cette semaine à 103 ans. Douglas, acteur, Laurent, mais aussi producteur notamment de Spartacus.
Oui, et Issar Danilovitch avait donc 103 ans. On peut avouer ici qu'on avait presque oublié que la fossette la plus célèbre de l'histoire mondiale du cinéma n'avait pas encore rejoint ses petits camarades hollywoodiens de la grande époque des années 50 et 60. Kirk Douglas, lui, n'a jamais oublié qu'il portait un pseudo et qu'il avait dû combattre l'antisémitisme dès sa jeunesse. Pas plus qu'il n'avait oublié que les producteurs hollywoodiens considéraient dans leur grande majorité les acteurs comme du bétail, d'où son interventionnisme culotté dans la production d'une bonne partie des 80 films qu'il tourna. Il avait de fait une haute idée du cinéma, lui qui disait par exemple que, je le cite, « le western est l'âme de l'Amérique », rien que ça. Et quand on regarde La Captive aux yeux clairs, Règlement de compte à Hockey Corral, ou bien encore La Brigade du Texas, le trop méconnu western qu'il a lui-même réalisé, eh bien, ma foi, on comprend effectivement ce qu'il voulait dire dans cette citation sur le western. Douglas, le démocrate dans l'isoloir, c'était l'anti-républicain John Wayne, et sur grand écran tout autant, même si les deux stars avaient en commun de se laisser aller parfois à un cabotinage aussi réjouissant énervant. Reste surtout un acteur de gauche capable de faire retravailler Dalton Trumbo, le scénariste blacklisté, capable aussi de dire son fait à Stanley Kubrick, avec qui, oui, il tourna à deux reprises, je le cite, « c'est un sale con qui a du talent, j'adore son talent, pas l'homme », a médité. Dans ses dernières années, il déclara « plus j'avance sur le chemin qui mène à la découverte de moi-même et à l'accomplissement de moi-même, et plus je suis impatient ». Le temps presse, j'ai peur de disparaître avant d'avoir pu réunir tous les morceaux de la mosaïque et contempler l'œuvre achevée. Fin de citation. Ben, mercredi dernier, Kirk a manifestement vu sa mosaïque terminée. Alors, deux conseils pour prolonger. D'une part, un livre aux éditions Rive-Neuve, de Georges Dilalo, un film sur Kirk Douglas, qui s'appelle Kirk Douglas. Et puis, dimanche soir, s'il vous plaît, voyez ou revoyez Règlement de compte à Hockey Corral sur Arte à 20h30.
Il disait un truc que j'aime beaucoup. La vertu n'est pas photogénique. J'ai construit une carrière en jouant des fils de pute. Voilà. On va l'écouter dans Les Sentiers de la Gloire, qu'il a également produit de Kubrick.
There's no stain on the honor of France. Certainly no disgrace to the fighting men of this nation. But this court-martial is such a stain and such a disgrace. The case made against these men is a mockery of all human justice. To find these men guilty would be a crime. To haunt each of you to the day you die.
C'était Kirk Douglas. On va commencer les sorties de la semaine, Laurent, avec oui. Adam, un premier film de l'actrice Mariam Touzani. Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisserie marocaine quand Samia, une jeune femme enceinte, frappe à sa porte. Abla est loin d'imaginer que sa vie changera à jamais. Histoire vécue par les parents de la réalisatrice, d'ailleurs.
Oui, alors, l'atout majeur et qu'on doit vraiment mettre en avant du film, c'est qu'il évite précisément d'être le énième drame social pur et dur qui viendrait comme ça d'un pays maghrébin notamment. C'est pas ça, c'est d'abord le double portrait qui sonne juste et complexe à la fois. Comment devenir mère, comment rester une femme, ce sont les deux interrogations qui prévalent, surtout dans cette société clairement patriarcale qui est la société marocaine actuellement. Alors avec comme arme, et ben une arme de cinéma. C'est-à-dire que, effectivement, pour ce premier film, il y a beaucoup de cinéma dans ce film, avec une façon très particulière de capter des moments de grâce, de capter les corps, de capter des petits instants comme ça. Ce premier long est une belle promesse. Ça s'appelle Adam.
Hashtag je suis là d'Éric Lartigot. Stéphane, c'est donc Alain Chabat, mène une vie paisible au Pays Basque avec ses deux fils, aujourd'hui adultes, son ex-femme, et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au quotidien avec Sue, une jeune sud-coréenne, sur un coup de tête. Il décide d'aller la rejoindre. Alors oui, on pourra reprocher beaucoup de choses à ce film, sa première partie, son exposé un peu long, un peu cliché, l'usage abusif des messages Instagram à l'écran, les échanges avec cette femme. On pourra aussi lui reprocher la troisième partie lorsque Chabat quitte l'aéroport de Séoul pour retrouver cette femme, ses fils et cette fin mielleuse qui n'en finit pas. Reste ce deuxième épisode, le corps du film. Chabat perdu dans l'aéroport de Séoul comme un film dans le film. Et là, on aurait pu en rester là, en vase clos avec lui quand il dort, mange, discute avec la femme de ménage, joue tout seul à la pelote basque, cuisine, tente de communiquer. Tout se transforme en aventure avec lui. Le charme, l'humour, la poésie, l'absurde de l'acteur Chabat, touchant, enfantin, il irradie ce film. Mais quel dommage que Lartigot n'ait pas eu l'audace de réduire son film à cet aéroport. Peur sans doute d'en rebuter certains, de n'être pas assez populaire, de plaire à tout le monde, qui sait. Ça s'appelle Hashtag Je suis là.
Oui.
La dernière
vie... C'est le nouveau film de celui qui a fait la famille Bélier.
Oui, et alors
ça.
Et alors,
je le dis donc pas, c'est une notation.
La dernière vie de Simon, lui aussi premier film par rapport au celui dont on a parlé précédemment, de Léo Carman. Oui. Simon a 8 ans, il est orphelin, son rêve est de trouver une famille prête à l'accueillir. Mais Simon n'est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret. Il est capable de prendre l'apparence de chaque personne qu'il a déjà touchée.
Oui, alors ça commence comme un conte fantastique pour enfants, avec, vous savez, le lampe de poche et lampe de chevet à l'appui dans les chambres, avec le parquet craque. On se dit, bon, pourquoi pas, après tout, c'est les vacances scolaires, donc ça va trouver son public. Commence après une histoire que Pierre Lemaitre aurait pu écrire. Moi, à sa place, je me demanderais quand même si, effectivement, l'auteur a pas lu les romans de Lemaitre, au moins récemment portés à l'écran. Mais, enfin, bref, on va pas faire des procès en plagiat tout de suite. Et puis alors, ça devient du grand n'importe quoi quand il s'agit effectivement que un don particulier qui fait qu'un personnage peut se transformer en tout personnage qu'il touche un instant. Là, on a tout d'un coup de l'accusation presque d'un inceste entre, tiens, un frère et sa sœur. Bref, là, on vise au grand n'importe quoi. Pour un beau portrait de l'adolescence, on ira plutôt voir le film de Stéphane Demoustier que cette dernière vie de Simon.
La cravate de Mathias Théry et Étienne Chailloux. Alors, allez voir l'ennemi, le sonder et tenter de le comprendre. Les deux réalisateurs, pendant 3 ans, ont suivi Bastien, militant FN à Amiens, au moment de la campagne présidentielle de 2017. Comment un garçon de 20 ans, apparemment sans problème, devient un extrême? Ils l'ont enregistré, filmé dans ses déplacements et dispositifs passionnants. On en écrit le récit à la manière d'un Balzac ou d'un Flaubert qui lui soumettent face caméra. Et cette mise en abyme nous interroge sans cesse sur ce garçon, cet engagement, et même si le cas de Bastien est particulier, sur cette France qu'on ne connaît pas, analyser de l'intérieur ce garçon et ce cas et cette lucidité, Bastien va enfin raconter son histoire. C'est un document unique et remarquable. Ça s'appelle La cravate. Un soir en Toscane, Laurent, de Jacek Borczuk, polonais, avec cette immense actrice Krystyna Janda, qui interprète dans ce film une poétesse et prix Nobel juive polonaise qui s'est retirée dans une campagne de Toscane où elle vit libre et heureuse jusqu'aux événements et jusqu'aux migrants.
Oui, alors en fait, ça fait appel à un souvenir de déclaration extrêmement maladroite, c'est un euphémisme du grand compositeur Stockhausen au moment des attentats, je crois du World Trade Center, qui avait totalement dérapé oralement. La situation est reprise avec cette espèce de poétesse comme ça qui vit dans une superbe maison toscane et à qui on va reprocher des déclarations effectivement sur l'arrière-fond de terrorisme, des migrants et de l'art contemporain aussi. Voilà, c'est un cocktail assez explosif et malheureusement ces bobos intellectuels qui boivent manifestement du très très bon vin toscan dans de très 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 belles maisons toscanes avec des très 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 beaux paysages n'ont strictement aucun intérêt et rien à nous dire.
Oula, The Gentleman de Guy Ritchie. Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu'il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive. La capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruption et enlèvements. C'est fou de regarder un film et de dire qu'il est déjà démodé. Comme, un peu comme une pâle version de celui qu'il avait fait vraiment connaître, qui était Snatch, qui était lui survitaminé et drôle. Celui-là est partout vintage dans la mise en scène, dans l'intrigue qui se perd dans les flashbacks, dans la réalisation surlignée comme un Tarantino sans jus, plus une tentative de cinéma dans le cinéma assez vaine, mais qui permet à ses acteurs de grands cabots d'en faire des tonnes. Mention spéciale à Hugh Grant et Colin Farrell, les deux atouts maîtres dans ce film absolument mineur.
J'approuve ce message.
Notre-Dame du Nil pour terminer, de Atik Raini, Rwanda 73, dans l'Institut catholique Notre-Dame du Nil, des jeunes filles rwandaises étudient pour devenir l'élite du pays. En passe d'obtenir leur diplôme, elles partagent le même dortoir, les mêmes rêves, mais aux quatre coins du pays, comme au sein de l'école, grondent des antagonismes profonds.
Oui, c'est l'adaptation d'un roman très très autorisé, parce que très autobiographique, de Scolette Mukasonga, qui tente de remonter aux origines du génocide au Rwanda. Le petit problème, c'est que éventuellement la tentation des belles images, des très très belles images de cette très belle Afrique au moment de l'horreur, ou juste avant l'horreur, ou pour contrer l'horreur, est-ce que ça fonctionne réellement? De même que l'interrogation qui consiste à s'interroger sur la présence ou non de Dieu à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment la bonne interrogation? Les génocides sont, jusqu'à preuve du contraire, faits par des hommes, et uniquement par des hommes, et non pas par un dieu ou des dieux.
Vite, vite, un festival, celui de Vesoul.
Oui, celui de Vesoul, ben vous irez à Vesoul pour tous les cinémas d'Asie du 11 au 18 février, oui, de l'Afghanistan à Singapour.
Les cadeaux maintenant pour nos invités.
Des cadeaux. Alors, pour Maître Garbarini, on va lui offrir Braquer Poitiers. C'est tout un programme. C'est un film de Branquignol. Et qui est extraordinaire. Ce sont des pieds nickelés. C'est chez Capricci. J'adore. Ça a eu le prix Jean Vigo l'an dernier. Et c'est absolument réjouissant. Annelise de Moustier opine.
Tout à fait.
Pour vous, Stéphane de Moustier, ça sera, comme pour Annelise de Moustier, du Max Ophuls ou rien, s'il vous plaît. La Ronde, en nouvelle version, restauration exclusive. La Ronde, est-ce qu'on présente encore La Ronde? C'est chez Carlotta et c'est un merveilleux DVD. Et pour vous, l'actrice Anaïs de Moustier, une autre actrice, tiens, Martine Carole, Lola Montes, évidemment, l'autre chef-d'œuvre, le dernier de Max Ophuls.
Anaïs, Anaïs de Moustier,
merci,
qui est nommée au César pour Alice et le maire.
Oh,
on ne comprend pas pourquoi Dupin n'y est pas nommé. On ne comprend pas pourquoi le film ne fait pas partie des films nommés, des meilleurs films.
Des meilleurs scénarios, des meilleurs tout.
Ouais,
je suis d'accord avec vous.
En tout cas, bravo à vous, j'espère que vous l'aurez. Et
merci,
les Oscars, c'est dimanche, avec on croise les doigts pour Les Misérables. C'est à vous pour le générique. Merci beaucoup. La Fille au Bracelet sort mercredi prochain.
Salut.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantes a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Ophélie Vivier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Stéphane de Moustier, j'y étais.
Et moi, Anaïs de Moustier, j'y étais.
Et moi, Pascal-Pierre Garbarini, j'y étais.